VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Bagassi Koura et Henri Francisque avec vous ce matin.
Au sommaire, ce mercredi 4 février, des centaines de troupes du Tchad sont entrées dans le nord du Nigeria. D'autres soldats tchadiens ont été déployés à la frontière entre le Niger et le Nigeria.
Moi, j'ai vu en tout cas des véhicules remplis dans notre village. Les gens disent qu'ils sont au nombre de 500 véhicules tout confondus. Des citernes, des carburants, des porte-chars et des véhicules 4x4 portant des soldats.
Le Pentagone a annoncé hier avoir effectué une frappe de drone en Somalie visant un dirigeant d'Al-Shabaab.
Démission hier en Côte d'Ivoire de Francis Rodier, président du Conseil constitutionnel. Il a été remplacé par Mamadou Koné, jusque-là président de la Cour suprême.
Bonne nouvelle en Guinée, 2 semaines après la rentrée des classes, toujours pas de cas d'Ebola.
La Jordanie a procédé à l'exécution à l'aube de 2 djihadistes, dont une irakienne réclamée par le groupe État islamique.
Et dans moins de 10 minutes, le journal de la CAN. Et n'oubliez pas la minute écho en fin d'édition. Mais d'abord, le journal.
Des centaines de troupes du Tchad dans le nord du Nigeria dans le cadre d'une offensive régionale contre les insurgés de Boko Haram. Des témoins affirment que des soldats et des véhicules tchadiens venant du Cameroun ont traversé un pont pour entrer dans la ville nigériane de Gamboru. Une autre force tchadienne d'au moins 300 soldats s'est positionnée près de Bosso, ville située à la frontière entre le Nigeria et le Niger.
En Côte d'Ivoire, le président du Conseil constitutionnel démissionne à quelques mois seulement de la présidentielle d'octobre prochain, Eddy Sango.
C'est la présidence ivoirienne qui a annoncé cette décision sans en préciser les raisons. Francis Wodier, agrégé des droits, reconnu pour sa probité, avait été nommé par les présidents Alassane Ouattara en juillet 2011. Fondateur du Parti ivoirien des travailleurs, il s'était présenté 3 fois à des élections présidentielles jusqu'en 2010 sans succès. Il sera remplacé par Mamadou Koné, ancien ministre de la Justice, proche du chef de l'État et président de la Cour suprême. L'institution reste et les hommes peuvent changer, a réagi Joël Nguessan, porte-parole du RDR au pouvoir. Pour l'instant, les présidents Alassane Ouattara est le seul candidat déclaré à la présidentielle d'octobre prochain. En 2010, les conseils constitutionnels avaient déclaré Laurent Gbagbo vainqueur alors que la commission électorale indépendante avait accordé la victoire à Alassane Ouattara. Les violences post-électorales avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois.
Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées en Guinée lors d'accrochages entre policiers et partisans de l'opposition, manifestant contre des mutations jugées politiquement orientées dans l'enseignement. L'AFP, qui rapporte l'information, précise que les violences ont éclaté lundi à Labé, à 400 km au nord de Conakry. Labé, c'est le fief de l'UFDG, principal parti d'opposition, dirigé par l'ancien premier ministre Sélou d'Alaine Diallo. La ville est restée paralysée toute la journée, patrouillée par des véhicules militaires, selon des témoins.
Manifestation des écoliers en République centrafricaine. D'après l'AFP, ils étaient plusieurs milliers dans les rues de Bangui hier, bloquant la circulation. Alors que les enseignants sont en grève depuis le 29 janvier, les écoliers, eux, exigent le droit à l'éducation.
Robert Mugabe, exceptionnellement autorisé à voyager dans l'Union européenne. Le président du Zimbabwe fait pourtant l'objet de sanctions, lui interdisant de se rendre en Europe. Mais cette interdiction sera levée quand il se déplacera en sa qualité de président de l'Union africaine, a indiqué une porte-parole du service diplomatique de l'Union européenne, citée par l'AFP.
Le Pentagone a annoncé hier avoir effectué une frappe de drone en Somalie visant un dirigeant d'Al-Shabaab. L'attaque a eu lieu samedi dernier au sud de la capitale au Mogadiscio. Selon le chargé de presse du département de la défense, le contre-amiral John Kirby, elle visait Youssef Dick. Il est le chef des opérations extérieures des renseignements et de la sécurité du groupe islamiste. Le Pentagone n'a pas fait le bilan de cette opération.
En Libye, 16 soldats tués et 38 autres blessés en ce début de semaine dans des combats près de la ville de Derna et autour d'un terminal pétrolier dans l'est du pays. Des précisions avec Claire Morin-Gibault.
De violents combats ont encore eu lieu en Libye, alors que des militaires ont tenté lundi d'entrer dans la ville de Derna, dans l'est du pays, a annoncé le porte-parole de l'armée qui a souligné que les islamistes avaient essuyé de lourdes pertes en hommes et en matériel dans ces combats. Située à 1300 km à l'est de Tripoli, entre Benghazi et la frontière égyptienne, Derna est une place forte historique des islamistes radicaux. Elle est devenue le fief des partisans du groupe extrémiste État islamique, selon des experts. Transformée en Émirat islamique, elle accueille régulièrement des combattants étrangers depuis 2011, notamment pour qu'ils s'y entraînent avant d'être envoyés en Irak ou en Syrie. D'autre part, des combats continuent d'opposer les milices de Fajr Libya et les forces pro-gouvernementales dans l'ouest du pays, près de la frontière tunisienne, ainsi que dans l'est, dans la région appelée Croissant pétrolier, une région qui comprend les terminaux pétroliers les plus importants de Libye. Livrée aux milices, la Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi au terme de 8 mois de conflit en 2011.
En Égypte, au moins un mort et 2 blessés hier suite à l'explosion d'une bombe placée en bordure de route à Alexandrie, la seconde ville du pays. L'incident a eu lieu quelques heures après la découverte de 2 engins explosifs à l'aéroport international du Caire. 2 bombes désamorcées à temps. Une explosion dans le centre de la capitale n'a pas fait de victimes. Pas de revendications non plus concernant ces différents incidents.
Le secrétaire général de l'ONU se dit déçu par l'accord signé dimanche par les belligérants sud-soudanais et présenté comme une étape clé vers la paix. Des détails avec Michel Joseph.
Dans une déclaration publiée hier, Ban Ki-moon dit regretter que le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ne soient pas parvenus à s'entendre sur une formule de partage de pouvoir. Aucune paix durable ne sera trouvée au Soudan du Sud tant que ses leaders ne placeront pas les intérêts de la population civile au-dessus des leurs, a souligné le secrétaire général onusien. L'accord paraphé par messieurs Kiir et Machar dit que le gouvernement soudanais et les forces rebelles doivent finaliser un accord de paix d'ici le 5 mars, mais donne peu de détails quant à la manière d'y parvenir. Cela fait plus d'un an que les deux camps se livrent à une sanglante guerre qui a fait plus de 10 000 morts et quelque 1,5 million de déplacés. Ils ont signé au moins 3 accords qui ont rapidement échoué. Quiconque violera l'accord de dimanche sera traduit au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'Union africaine, a averti Seymoun Mesfine, le médiateur de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
9 personnes auraient été tuées ce matin dans le crash d'un avion de la Transasia qui s'est abîmé dans une rivière avec 58 personnes à bord à Taipei, en Chine. C'est ce que rapporte l'AFP, affirmant que 18 personnes ont été secourues, tandis que d'autres passagers étaient pris au piège dans l'appareil. La TR-72 600 au turbopropulseur de la Transasia effectuait un vol intérieur lorsqu'il a heurté un pont routier avant de s'abîmer dans une rivière proche.
Le gouvernement jordanien a prévenu hier que la riposte du royaume à la mort de son pilote brûlé vif par le groupe État islamique serait terrible. Eh bien, ce matin, on apprend qu'Aman a procédé à l'exécution à l'aube de 2 djihadistes condamnés à mort, dont la kamikaze irakienne réclamée par l'État islamique. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
Notre punition et notre revanche seront proportionnelles à la perte subie par les Jordaniens, a déclaré à la télévision Mamdou Al-Ameri, porte-parole de l'armée jordanienne. Selon les agences de presse, Aman prévoyait d'exécuter ce matin à l'aube une terroriste irakienne dont l'État islamique réclamait la libération. Sajida Al-Rishawi avait été condamnée à mort pour sa participation à un attentat suicide en Jordanie en 2005. De son côté, le roi Abdullah, qui rencontrait à Washington le vice-président Joe Biden, a déclaré que le meurtre du pilote jordanien Maaz al-Kassasbeh aura pour effet de rendre la nation jordanienne plus unie. Une vidéo du groupe djihadiste a montré le pilote brûlé vif dans une cage. Selon l'AFP, on voit dans la vidéo un homme portant une tenue orange enfermé dans une cage en fer et les flammes qui consument ses vêtements jusqu'à ce qu'il devienne une boule de feu. Le gouvernement jordanien croit que Qassas Bey a été tué le 3 janvier après avoir été capturé lors d'un raid de la coalition sur les positions de l'État islamique. Pourtant, les djihadistes avaient offert de l'échanger contre leurs camarades irakiennes emprisonnés en Jordanie. Mais Amman avait exigé les preuves qu'il était encore en vie. Le président américain Barack Obama a dénoncé hier la barbarie de ces djihadistes et appelé à redoubler de vigilance et de détermination pour lutter contre le groupe État islamique.
Le choc Côte d'Ivoire-RDC, c'est l'affiche de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le journal de la CAN, c'est maintenant avec Nicolas Pino.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. Le jour de gloire est arrivé pour les Congolais ou pour les Ivoiriens en demi-finale. La Côte d'Ivoire va-t-elle réussir à se qualifier pour sa troisième finale sur les six dernières Coupes d'Afrique des Nations? Les partenaires de Yaya Touré sont en confiance. Après avoir éliminé tour à tour le Cameroun et l'Algérie, les Ivoiriens sont présentés comme les favoris sur ce match. Pourtant, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Hervé Renard, a appelé ses joueurs à être humbles. On l'écoute en conférence de presse hier.
On a certainement beaucoup plus changé que la RDC, mais elle a aussi changé parce qu'elle a apporté une ou deux touches qui sont importantes, notamment Mbokani, qu'on n'a jamais vu évoluer contre nous, par exemple, durant les qualifications, et qui là est un joueur très très important. On l'a vu en quart de finale, il a marqué deux buts et il pèse énormément. Plus des joueurs offensifs qui sont capables à tout moment de faire la différence, mais ça on s'en était aperçu déjà, puisqu'on avait fait un match assez mouvementé à Abidjan. Sur nos deux dernières prestations, oui, on peut peut-être revenir avec une meilleure position pour les bookmakers, mais ça veut pas dire grand-chose. Hein. Et je le répète encore une fois, si on veut rejoindre cette finale, il va falloir être aussi bon qu'on l'a été contre le Cameroun et aussi bon qu'on l'a été contre l'Algérie.
Hervé Renard, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, au micro d'Abdou Chakour Aboud, l'envoyé spécial de VOA Afrique en Guinée équatoriale. La République démocratique du Congo, elle, a reçu hier la visite du président Joseph Kabila, venu encourager les Léopards, dont la dernière demi-finale remonte à 1998. Le sélectionneur Florent Ibengue est conscient de l'enjeu et espère que ses troupes pourront à nouveau se surpasser. On l'écoute.
On doit les jouer, comme si c'était l'Algérie, on allait les jouer aussi. Maintenant, on est content d'être en demi-finale. La Côte d'Ivoire est là, on va être content de faire le meilleur match possible pour tout faire pour se retrouver en finale. On va tout faire, vraiment on va tout faire. On a la possibilité de se retrouver en finale de cette compétition. Ça n'arrive pas tout le temps, donc on se doit de tout donner pour y être.
Le sélectionneur de la RDC, Florent Ibengue. Et jeudi, l'autre demi-finale entre le Ghana et la Guinée équatoriale se jouera. Au total, ces demi-finales opposeront donc l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale. Léger avantage sur le papier à l'Afrique de l'Ouest, nous dit notre consultant Jules Valentin Gouet dans son coup de sifflet.
Bonjour. Les affiches des demi-finales de la 30e édition de la CAN nous proposent une confrontation Afrique de l'Ouest-Afrique centrale, numériquement équilibrée, mais apparemment à l'avantage de l'Afrique de l'Ouest sur le plan sportif. La surreprésentation de cette partie du continent étant devenue une évidence à ce stade de la compétition depuis une quinzaine d'années. L'Afrique centrale, aux abonnés absents avec l'éclipse du Cameroun, a le mérite d'avoir atteint le carré d'as pour cette coupe qu'elle organise chez elle. Mais les champions qu'elle présente considèrent déjà exceptionnel de se retrouver en pareille fête. La Guinée équatoriale, propulsée par une faute d'arbitrage flagrante, gagnerait à perdre sa rencontre pour sauver sa compétition. La RDC, mieux armée, mais très inégale dans ses prestations, affronte un commando ivoirien retrouvé que seule la victoire finale peut combler. Il est donc difficile de ne pas pronostiquer pour la finale un énième duel de feu entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, un remake de l'interminable finale de Dakar en 1992, que seuls des imprévisibles léopards de RDC sont encore capables de renvoyer au calendre grec. À demain.
Merci Jules. Sachez aussi que la Confédération africaine de football a suspendu pour 6 mois Sichourne Rajendra Pasar,
La CAF demande aussi d'évaluer les dégâts laissés par les Tunisiens après le match dans les vestiaires. La fédération tunisienne, quant à elle, écope déjà d'une amende de 50 000 dollars. La CAF menace aussi de suspendre les Tunisiens s'ils ne présentent pas leurs excuses. La Tunisie pourrait se voir exclure des éliminatoires de la CAN 2017. Voilà, ainsi s'achève le journal de la CAN. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain point sur la compétition ce soir dans Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur voafrique.com.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Koura de retour avec vous. Place maintenant au dossier du jour. Des soldats tchadiens ont pris position entre Mamoury et Bosso au Niger. Ces deux bourgades sont séparées du Nigeria par la Komandougou Yobe, une petite rivière qui sert de frontière entre les deux pays. Boko Haram avait pris contrôle de Malam Fatori et Damasak, deux villes qui ont été bombardées la semaine dernière par l'armée tchadienne. Pour un témoignage sur l'arrivée des Tchadiens, Idriss Fall a joint Aboubakar Mustapha Ligari, un habitant de Bosso dans l'extrême sud-est du Niger.
Moi, j'ai vu en tout cas des véhicules remplis dans notre village. Les gens disent qu'ils sont au nombre de 500 véhicules, tout confondu. Des citernes, des carburants, des porte-chars et des véhicules 4x4 portant des soldats. Les soldats tchadiens, à leur arrivée, ils ont pris position de Mamoury, qui est un peu à l'est de Bosso, jusqu'à l'ouest de Bosso, tout au long de la frontière, à peu près 20 km, ils ont pris des positions.
Est-ce qu'ils ont commencé à traverser la rivière?
Non, jusque-là, mais les gens parlent de d'ici 24 heures. Bon, là, c'est des rumeurs, c'est pas officiel.
Et qu'est-ce que vous avez comme information de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté de la rivière qui vous sépare du Nigeria?
De l'autre côté de la rivière, à Malam Fatori, juste à 3 km, les insurgés aussi se ressemblent. Mais ils n'ont pas assez d'armes. En tout cas, nous, on n'a pas vu un truc très lourd avec eux. Il y a des armes qu'on connaît nous-mêmes. Et ces armes sur leur véhicule, ils sont revenus à Malam Fatori. Ils sont juste là, à la frontière, donc juste à 100 mètres du village, je vous dis. C'est le Komandougou qui nous sépare. Le Komandougou a un laser d'à peine 50 mètres.
Est-ce que la rivière, c'est la basse crue?
Elle s'est retirée, ça fait un mois.
Donc il est très facile de traverser, quoi?
Très, très facile.
Les soldats nigériens, quel est leur rôle dans tout ça?
Les soldats nigériens, ils ont un camp chez nous, donc ils ont gardé leur position et l'autre sont venus en renfort. Là, c'est ce qu'on voit, quoi. Mais on ne sait pas au fond qu'est-ce qu'ils font. Comme vous savez, la sécurité de chez nous, maintenant, c'est un peu serré. C'est ce qu'on voit que je suis en train de vous dire.
Et comment les populations ont réagi à l'arrivée des soldats tchadiens?
Oh, là, vraiment, sans vous cacher, la population a eu vraiment une confiance de rester. Parce que bien avant leur arrivée, il y a eu l'intervention des avions à Malam Fatori. Donc les gens ont commencé à fuir. Et maintenant, les gens ont repris confiance et tout le monde évacue à ses besoins.
Mais vous vous attendez dans les prochaines heures à ce qu'il y ait des combats?
Et là, on croit qu'ils vont passer la frontière, mais ce n'est pas un truc qu'on sait. Nous, on croit. Et on prie bon Dieu que ça soit ainsi.
Aboubakar Mustapha Ligari, un habitant de Bosso, dans l'extrême sud-est du Niger.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la double offensive camerouno-tchadienne contre Boko Haram. L'Union africaine, elle, veut une force régionale contre le groupe islamiste nigérian. Toute cette mobilisation peut-elle arrêter Boko Haram? Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum. Ce jeudi, à 19h10.
Une affaire de sous, une affaire de 200 millions de francs CFA qui agite la République du Bénin. Depuis quelques jours, un député de l'opposition, membre du comité de supervision de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée, accuse dans une lettre ouverte au chef de l'État un de ses collègues, également membre du même organisme, de délit d'initié, parce qu'ayant favorisé l'adjudication des marchés de 200 millions de francs CFA pour l'une de ces sociétés. La présidence de la République a vivement réagi dans un communiqué avant de saisir l'autorité nationale de lutte contre la corruption pour la manifestation de la vérité. Des précisions ici à travers ce reportage de Peggy Ludovic Dagba à Cotonou.
Le 27 janvier 2015, le député Léon Basila Rossi, membre du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, publie dans la presse nationale la lettre ouverte qu'il a adressée au président béninois pour dénoncer son collègue député Karimou Kabisika, également membre du COSLEPI, convaincu selon lui de délit d'initié. La substance de l'affaire ici avec Jude Lodjou, coordonnateur de l'Union fait la nation.
Monsieur Karim Kabisika, député de la mouvance doublement proche du chef de l'État et membre du COSLEPI, responsable de la commission de dépouillement des ordres au COSLEPI, est l'actionnaire majoritaire d'une entreprise dénommée Business Engineering Shah. Ta dite entreprise a comme partenaire la société dénommée Gemalto SA, basée en France. La société Gemalto SA, justement partenaire de la société Business Engineering, a été déclaré adjudicataire en qualité d'opérateur technique du marché des travaux de correction de la Libye. Le volume d'affaires entre les deux entreprises est estimé à 200 millions de francs CFA et porte justement sur la correction de la Libye. La société Business Engineering, dont l'honorable Kabisika est l'actionnaire 60%, a reçu sur un compte EcoBank ouvert en son nom à Cotonou, avec des références précises, le transfert en provenance de Paris le 13 juillet 2014 d'un montant de 105 390 000 francs CFA.
Le 29 janvier, la présidence de la République du Bénin réagira à travers un communiqué, autant véhément, accusateur et menaçant pour les dénonciateurs. Quelques extraits de ce communiqué très relevé avec Saka Fikera, membre de l'Union fait la nation.
C'est avec étonnement que le président de la République découvre, en même temps que les lecteurs des journaux, la récente accusation portée par l'honorable député Ahossi contre son collègue Kabisika et le ton et le contenu inacceptable et profondément irresponsable à l'endroit du premier magistrat du pays.
L'Union fait la nation, dont est membre le député Léon Arossi, n'entend pas le laisser victime expiatoire du régime, qui, selon cet énorme, fait de la diversion au lieu de s'attaquer à l'objet de la dénonciation afin que la vérité éclate. Tofin Mouture, ancien ministre de Boniaï, membre de l'Union fait la nation.
Mais au nom de quel principe le DGCNSS, qui a connu des dénonciations graves, se retrouve conseil technique d'un service juridique à la présidence qui n'existait pas avant le créer pour lui? Au nom de quel principe la dame de la fonction publique, que tout le monde reconnaît avoir tripatrié les concours, on la nomme ambassadrice à Niamey et on vient menacer à Rossi? On fait de la lutte contre la corruption de façon sélective et on veut du respect de la part de ceux-là qui se sentent directement concernés. Nous ne lâcherons pas à Rossi qu'ils se le tiennent pour dit.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
En Guinée, deux semaines après la rentrée des classes, aucun cas d'Ebola n'a été signalé. Les autorités là-bas ont installé des dispositifs de prévention dans toutes les écoles afin d'éviter la propagation du virus Ebola en milieu scolaire. Le point avec notre correspondant sur place, Zakaria Kamara.
2 × 83,3 divisé par 0,85.
Dans cette salle, des élèves de terminale suivent des cours de révision. Ils ont repris le chemin de l'école avec quelques mois de retard. C'est en octobre que les cours reprennent en Guinée après 3 mois de vacances. Cette année, l'épidémie de fièvre à virus Ebola a fait traîner les choses. 2 semaines après l'ouverture des classes, certaines autorités scolaires semblent se satisfaire des mesures de prévention dans leurs établissements.
C'est nous-mêmes qui rappelons souvent les enfants. Bon, on ne se salue pas, mais la main dans la main, on ne se donne pas de l'accolade, on n'échange pas l'eau, même les morceaux de pain, on n'échange pas. Donc, chaque matin, autour du mât, après la montée, et nous donnons, n'est-ce pas, ces messages de sensibilisation et nous avons avons donné aussi consigne à tous les enseignants qui partent dans les classes. À chaque fois que tu as cours, il faut rappeler ces notions d'hygiène, n'est-ce pas, aux enfants.
Même sentiment de sécurité au groupe scolaire Kumba Djawara, une école de la banlieue de la capitale, dont le directeur des études écarte toute possibilité de propagation de la maladie dans son école. Mamadou Djoulé Diallo.
Ici, au niveau de l'école, ils savent que vraiment ils sont sécurisés. Déjà, au portail, vous ne rentrez pas tant que vous ne rencontrez pas celui qui a les thermoflash, et puis vous vous lavez également avec le savon et l'eau. Donc, toutes les dispositions sont prises pour que vraiment ça soit sécurisé et apaisé.
Dans toutes les écoles visitées, le lavage des mains au chlore et la prise obligatoire de température est presque une habitude chez les élèves.
Nous avons très bien commencé les cours. À chaque fois quand on vient, les thermoflash sont là. Les prochaines mettent les thermoflash, on lave d'abord la main. Avant de rentrer en classe aussi, on lave les mains. À chaque fois qu'on sort, avant de rentrer, on lave les mains. Quand même, toutes les mesures sont prises.
Depuis qu'on a commencé, on n'a jamais eu peur d'abord. Parce qu'à chaque fois, on lave les mains avec de l'eau de Javel.
De nombreux élèves sont encore restés à la maison. La peur pour certains et pour d'autres, on cherche les moyens pour reprendre dans les jours et semaines à venir. Pour l'heure, on note 0 cas Ebola dans les écoles. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Avec nous ce matin, Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
La justice togolaise somme EcoBank de payer 11,6 millions de dollars à l'Ivoirien Thierry Tano.
C'est un autre camouflé pour EcoBank dans son bras de fer contre son ancien directeur général pour licenciement abusif. Cette condamnation intervient un mois après un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Abidjan au profit de Thierry Tano, crédité de 15 millions de dollars pour diffamation. La banque appelle à un conseil d'administration extraordinaire dès la semaine prochaine en faisant appel des deux jugements et en engageant une procédure d'arbitrage à Paris.
Relever le défi de l'autosuffisance en 2017. Grâce au riz, c'est le défi de Macky Sall au Sénégal.
Le riz est une denrée très prisée au Sénégal, mais l'essentiel est importé du Vietnam, de la Thaïlande, de l'Inde et parfois du Brésil. Les importations de riz coûtent cher au Sénégal et le président Macky Sall veut inverser la tendance en consommant local.
Je me félicite déjà des engagements obtenus de la part presque de tous les acteurs, qu'il s'agisse des producteurs, des importateurs de riz, des commerçants, bref, de tous les acteurs. Je sens une réelle volonté d'accompagner cette ambition forte pour notre pays.
Macky Sall, chef de l'État du Sénégal sur la RTS.
Le Ghana proche d'un accord financier avec le FMI.
Le président John Mahama a affirmé à l'agence Reuters que les négociations sont sur la bonne voie. L'accord devrait être signé le mois prochain. Le gouvernement veut doper la croissance par une plus grande maîtrise des dépenses publiques, contenir les salaires du secteur public et ramener le déficit budgétaire à 3,5% à l'horizon 2017.
Merci Jean-Roger. C'était la Minute Éco.
Chers auditeurs de VOA Afrique, c'est votre gars Roger Moutou de RM Show. Restez branchés ce soir entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. Notre sujet hebdomadaire, la question, le vrai amour entre l'homme et la femme, existe-t-il vraiment? Comment le discerner? Vous avez posé cette question sur notre groupe Facebook Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Certains pensent que l'amour est une grande illusion. Qu'en sais-je? Mais nous allons en parler aujourd'hui, pourquoi pas le reste de la semaine. Nous aurons plusieurs invités dans notre studio 13 de VOA. Nous lirons vos mails et vos commentaires postés sur notre groupe Facebook Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Mais appelez aujourd'hui en 20h 21h temps universel au 001 202 619 31 40. Aïe, l'amour. Peace Africa.
This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Styling, violent, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Woo.
girl sent you hallelujah. Ooh. Girl sent you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk. Just watch. Don't believe me, 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 just watch. Hey, 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 oh!
Stop. Wait a minute.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Alberson était à la production et John Ellison était à la console technique. Un grand merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. C'était Bagassi Koura au micro. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.